Bonjour, vous écoutez Ça c'est Climat, l'émission d'En Transition, des initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique. Nous sommes ensemble une heure et c'est la dernière émission de l'année. Pour cette émission, nous allons recevoir deux partenaires d'En Transition. Tout d'abord, l'association Valorise avec Peggy Jousse Peralta et Lucie Bouet. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Pierre-Yves Loipre de Manger Bio. Valorise, c'est une association de sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l'éducation au goût, dans une démarche d'économie circulaire et solidaire. Et Manger Bio, bien, c'est un magasin d'alimentation biologique à Angers, près de Lafayette. Mais avant de recevoir nos invités, quelques nouvelles d'En Transition et notamment donc tout le monde en parle, hein, le monde d'après, on sort plus ou moins facilement quand même de cette période de confinement. On commence à retrouver le plaisir de la vie, le plaisir d'aller au marché, de retrouver nos producteurs préférés. Et bien, le guide de Main en Poche, c'est un guide, comme quelqu'un un de nos suiveurs sur Twitter le disait récemment, voilà, pour l'après-demain, et bien, préparer l'après, et bien, vous avez deux mains en poche. Deux mains en poche, c'est donc ce guide édité par En Transition de plus de 200 pages couleur sur le Maine-et-Loire et qui bien vous donne des conseils, des pistes sur 10 thématiques de la vie quotidienne, se nourrir, se déplacer, prendre soin de soi, habiter, comment et bien on peut changer son comportement, sa consommation, s'engager pour un monde plus solidaire et plus écologique avec 350 initiatives locales référencées. Alors je me disais que c'était peut-être l'occasion de redire où est-ce qu'on pouvait se procurer Demain en Poche. Demain en Poche, on peut se procurer d'abord chez nos partenaires. Épicerie de Pauline, rue Saint-Julien à Angers, le Vélo Bar, rue Bressigny à Angers, Manger Bio qu'on recevra tout à l'heure, rue de l'Étendueur à Angers, à Biocop La Pyramide, route de la Pyramide au Pont-de-Cé, à Mon Bio Camion. Mon Bio Camion, c'est un camion itinérant de produits en vrac. Donc vous les retrouvez sur leur point de vente, sur différents marchés. Quoi de plus naturel, à Douai-la-Fontaine, au Carré Vert, à Chemillé. Et puis on peut aussi le trouver chez d'autres acteurs que nos partenaires qui ont pris aussi le guide de Main en Poche pour vous le mettre à disposition. La librairie Contact rue Le Neveu à Angers, le marché de Cocagne à Saint-Barthélemy, l'écho des Bocaux à Saumur, Biologique à Chemillé, la crêperie Le Breton sur ses marchés, le Loire-Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire, Biocop aux Rivières à Mazé. Et puis donc trois nouveaux points de vente depuis la dernière fois. Au local à Chalonne-sur-Loire, donc c'est un nouveau lieu qui a ouvert pour proposer un mix d'épiceries locales et de réception, salon de thé. À De Padello, qui est une épicerie aussi à Andard, et puis le Mot de la Fin, qui a ouvert juste avant le confinement, donc allez les voir à Montreuil-Juigné. Voilà ce que je pouvais vous dire. Autre information concernant En Transition, eh bien c'est une information de notre partenaire Solidarity Food, qui est également une association de lutte contre le gaspillage alimentaire, très active sur Angers, et qui avait, dans le cadre du budget participatif, demandé l'investissement dans une tente anti-gaspi. Donc ce projet avait été voté par les Angevins. Et donc, depuis, ils ont commencé. Donc, demain, samedi, vous les retrouverez au marché Leclerc. Et donc, ils collectent en fait les légumes, les fruits invendus, qui, au lieu d'être jetés, ils les glanent, ils les récupèrent. Et ensuite, il y a une distribution qui se fait dans la foulée à la fin du marché pour les gens qui ont besoin de pouvoir manger eux aussi des fruits et légumes frais. Voilà. Donc, s'ils recherchent des bénévoles pour les aider à collecter les invendus et ensuite à pouvoir les distribuer aux gens qui en auraient besoin. N'hésitez pas à les contacter ou à revenir vers nous pour les contacter. On va faire une petite pause musicale le temps que j'appelle nos amis de Valorise. I could tell. bonjour Peggy.
Oui, bonjour Mickaël.
Voilà, nous sommes à l'antenne ensemble, tu es avec Lucie.
Oui,
également.
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour Lucie. Alors on va parler tout d'abord de Valorize, hein, expliquer à nos auditeurs d'où vient ce projet. Peut-être d'abord toi Peggy, t'es fondatrice ou cofondatrice de Valorize, donc peut-être nous dire en fait comment est née cette association dans le Saumurois.
Alors moi je suis arrivée sur le territoire en 2016 avec l'envie de développer un projet qui ait du sens pour le territoire. Et donc en 2017 j'ai engagé un diagnostic sur les thématiques de l'alimentation auprès des entités déjà existantes, donc auprès de la collectivité, auprès des associations d'insertion, auprès des associations de dons alimentaires et des coopératives légumières, pour voir un petit peu ce qui se passait sur notre production, sur le gaspillage alimentaire et sur bien d'autres thématiques. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai créé effectivement l'association Valorize. Donc on a commencé tout petit, hein, on n'était que deux au début. Et puis ensuite, en 2018, fort de ce diagnostic, avec un certain nombre de partenaires, donc une douzaine, on s'est constitué un comité de pilotage pour se dire, voilà, on a identifié ces problématiques-là, maintenant comment on y répond et quelles solutions on met en face de manière très pragmatique. Tout de suite, voilà, sans attendre. L'idée, c'était de prototyper déjà des réponses et des activités, d'itérer, de revoir le modèle.
Et c'était quoi alors les besoins principaux qui émergeaient dans le territoire ?
Alors en fait, moi je suis partie du gaspillage alimentaire. Et dans cette problématique du gaspillage alimentaire, en fait, il est multiple. C'est-à-dire qu'on avait un problème de gaspillage alimentaire au niveau de la production. Donc notamment lié au cahier des charges de calibrage des fruits et légumes, c'est-à-dire qu'un producteur il produit ses fruits et légumes et quand il livre sur les coopératives par exemple ou les grandes et moyennes surfaces, il y a des cahiers des charges qui imposent des calibres. Je vous donne un exemple très concret, la courgette doit faire entre 21 et 23 cm. Et donc du coup tous les produits qui ne rentrent pas dans ce cahier des charges sont mis au déchet. Donc en général c'est au compost, hein, ça retourne à la terre. Mais se pose néanmoins la question du gaspillage des ressources, puisque on a arrosé, on a utilisé des ressources énergétiques conséquentes, du transport pour ces produits-là, qui in fine se retrouvent au compostage. Et puis il y a aussi la notion de rémunération, puisque sur ces volumes-là, les maraîchers ne sont pas rémunérés de leur travail. Donc ça, c'était le premier point qui a été mis au jour. Le deuxième concerne plutôt la qualité alimentaire, notamment avec des discussions avec des associations de dons alimentaires sur la qualité alimentaire au niveau des bénéficiaires, qu'est-ce qu'on leur distribue, de quelle manière, etc. Et du coup, de là est ressortie une problématique, c'est la connaissance des produits. Aujourd'hui, des personnes achètent parfois des produits en barquette, etc. On n'a plus forcément la connaissance des fruits et légumes. Qu'est-ce que c'est qu'un panais? Comment ça se cuisine de manière très simple avec peu d'ustensiles? Donc cette problématique concerne à la fois aussi les bénéficiaires du don alimentaire, mais pas seulement. Les jeunes, les familles, les parents.
Et oui, donc, on a oublié, ça s'est perdu un peu, on a oublié ce que c'était le panais et on a peut-être parfois même pas forcément appris à cuisiner.
Et ben, voilà, en plus ici on est sur un secteur, donc on est vraiment au cœur d'une grosse zone de maraîchage, hein. On est sur le bassin de maraîchage de la France et c'est vrai qu'on a beaucoup de légumes anciens. Et moi-même, il y a certains produits, si on nous l'inculque pas tout petit, c'est compliqué en fait. L'habitude alimentaire, c'est quelque chose de très compliqué à changer. Mmh. Donc voilà. Donc en gros, c'est sous le spectre du gaspillage alimentaire qui est multiple. Voilà un peu l'état des lieux qu'on a fait. Et donc du coup, derrière, comme je disais tout à l'heure, on a mis en place différentes solutions à petite échelle pour répondre à ces enjeux-là.
Ouais. Et alors parmi ces enjeux, peut-être pour passer la parole à Lucie, je sais qu'elle est active sur ce chantier d'éducation au goût, là ce que tu évoquais à la fin, vous avez tout un volet d'intervention auprès du jeune public, des enfants, notamment au milieu scolaire.
Ouais, alors justement, c'est Lucie qui va répondre à tout ça, et du coup elle va vous expliquer justement quelles solutions on a développées en 2018 pour répondre à ces enjeux-là.
Oui, donc effectivement, on a développé tout un programme d'animation et de sensibilisation donc sur le gaspillage alimentaire, sur l'alimentation saine et l'alimentation durable. Donc on intervient dans les écoles du département et département limitrophes, étant donné qu'on est à Brain-sur-Allonne, donc à la limite de d'autres départements. Donc ces activités-là, elles vont parler des équivalences en sucre, elles vont parler de quelles solutions on peut apporter pour éviter de gaspiller, des choses comme ça, aussi la saisonnalité des fruits et légumes. Et à côté de ça, on est en train de développer une cuisine partagée, donc sur le lieu où on est, pour pouvoir proposer différents ateliers, donc des ateliers culinaires pour les bénéficiaires du don alimentaire, par exemple. Donc, comme disait Peggy tout à l'heure, pour réapprendre à cuisiner, savoir ce qu'est un panais, ce qu'est un topinambour, etc. Ensuite, des ateliers qui sont plus qu'on va appeler de découverte. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui veulent commencer des nouveaux modes de consommation, donc devenir végétarien, vegan, etc. Donc là, on va leur proposer des ateliers tournés autour des légumineuses, des céréales. Et ensuite, on aura aussi un atelier bocaux. Donc là, ça sera pour plus les jardiniers du coin qui ont des surplus de tomates, de courgettes, de haricots verts, qui ne savent pas forcément faire des bocaux ou qui n'ont pas le stérilisateur chez eux. Donc, ils pourront venir sur dans notre cuisine partagée. On fera des ateliers où l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, ils peuvent faire du troc. Donc, si par exemple, il y en a un qui a fait 20 bocaux de tomates et l'autre en a fait 15 de haricots, voilà, ils pourront échanger leurs bocaux. Mmh. Donc, dans un esprit de partage...
Voilà. Et ce qu'on entend, c'est que l'éducation au goût, hein, c'est pas quelque chose uniquement pour les enfants. En fait, l'éducation au goût, c'est une éducation tout au long de la vie. Ouais, comme tu dis, on change de régime alimentaire et c'est pas facile du tout. Ce que disait Peggy tout à l'heure, c'est-à-dire que surtout en France, hein, quand même, le régime alimentaire, c'est quelque chose qui nous définit, qui est un peu identitaire. Et c'est vrai que changer de régime alimentaire, c'est pas facile. Et du coup, vous contribuez à accompagner les gens dans cette démarche. C'est chouette.
Oui, exactement.
Et quelles sont les réactions du coup des élèves, des enseignants, ou est-ce que même vous avez des retours des parents? Enfin, comment les gens réagissent par rapport à ça?
Ils sont très réceptifs en fait à nos animations. Donc, que ce soit les enfants, les enseignants, et on a quelques retours de parents aussi de temps en temps quand on fait des événements du coup accessibles aux familles. Et ils trouvent ça chouette en fait de pouvoir avoir un apport de connaissances sur ces fruits et légumes qui nous semblent basiques, mais finalement qu'on ne connaît pas forcément. Il arrive que des fois j'intervienne dans une classe, par exemple, je pense à une classe de CE2 où j'étais arrivée avec mes fruits et légumes pour faire une compote anti-gaspi. Donc les fruits, c'était des pommes, des poires, des bananes. Et il y avait un élève qui n'avait jamais mangé de banane. Il ne savait pas comment ouvrir une banane en CE2. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, on part de quelque chose de vraiment très simple.
C'était un vrai locavore, quoi. Il mangeait que des fruits locaux.
Oui, l'idée c'est plus d'aller vers des fruits locaux, mais quand on intervient dans les écoles, on se rend compte que justement toutes les familles ne mangent pas forcément local, donc faut aussi partir de ce que eux connaissent pour pouvoir après les amener peut-être sur autre chose, mais déjà partir aussi sur ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Très bien. Peut-être à ce moment-là, parce que tu as parlé donc du lieu où vous êtes installé, donc à Brain-sur-Allonne, et du coup peut-être parler du projet de Food Lab Solidaire, peut-être juste la genèse de ce projet, et puis après une pause musicale, après on reviendra avec Peggy sur Hors Normes aussi, qui est sur ce lieu, mais voilà, je ne sais pas si c'est Peggy ou Lucie ou les deux. Voilà, ce projet de Food Lab Solidaire qui était aussi justement une des initiatives qui avait émergé avec Valorize.
Ouais, tout à fait. En fait, quand on a lancé toutes ces activités-là en 2018-2019, tout se faisait sur Saumur, mais on n'avait pas de locaux à nous. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu qui centralise en fait toutes ces activités-là pour être bien identifié au niveau du public et aussi au niveau des professionnels. Et donc on a eu la chance de trouver et de faire l'acquisition d'une ancienne friche industrielle qui a des terrains et des locaux qui nous permettent de développer en fait toutes les activités déjà existantes et de pouvoir mettre à disposition, pourquoi pas, du foncier solidaire pour d'autres porteurs de projets ou d'autres assos qui souhaiteraient aussi porter des projets, alors pas forcément sur la thématique de l'alimentation, mais dans tous les cas avec des valeurs communes aux nôtres, dans un esprit d'économie solidaire et d'économie circulaire.
et de mettre à disposition des locaux pour qu'ils puissent aussi lancer des projets de manière plus facile. Voilà, donc ça c'est la première vocation du lieu, c'est voilà, centraliser nos activités, permettre à d'autres de porter des projets en milieu rural, ce qui est important aussi. Et puis, en fait, on fait sens par rapport aux ateliers culinaires avec le développement de tout un parcours de jardin pédagogique autour des cinq sens, pour que les personnes qui viennent sur une journée pédagogique sur notre lieu puissent découvrir de la graine à l'assiette comment se passe la vie d'un produit à travers les cinq sens, avec la mise en place d'un jardin, donc d'un jardin avec différents modes de culture, avec voilà, où on va goûter, on va sentir, etc. Un poulailler pédagogique et puis des ruches pédagogiques. Voilà. Et puis voilà, tout ça fait sens avec les activités qu'on développe autour. Et pourquoi écolieux ? Parce qu'on fait attention à la gestion de l'eau. On est chez Enerco, par exemple, pour l'électricité. On fait de la récupération d'eau sur notre process, la valorisation des biodéchets en compost, les toilettes sèches. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème aussi qu'on prend en compte dans cet écolieu.
Et c'est vrai que moi, je peux en témoigner, parce que Peggy, on était venu avec En Transition vous rendre visite, et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un lieu dans un cadre magnifique. Et donc, si vous êtes porteur de projet et que vous souhaitez développer vos activités en zone rurale, parce que les zones rurales de notre département sont hyper dynamiques, enfin, dans le guide de main en poche, il y a plus de la moitié ou de la moitié des initiatives qu'on référence qui sont hors de la métropole angevine. Et bien, du coup, là, c'est vraiment un lieu sympathique avec quelqu'un de dynamique comme toi et de sympathique comme Lucie, vraiment un super lieu pour bien voilà démarrer ou poursuivre un projet d'aventure entrepreneuriale dans une perspective solidaire.
Ouais, puis on touche à la Touraine et à la Vienne, et on est à 10 minutes de l'échangeur Angers, Le Mans, Tours, enfin voilà. Donc on n'est pas non plus déconnecté des grands axes, voilà, quand on a des besoins aussi économiques de développement, quoi.
Oui, puis comme le disait Lucie, vous intervenez dans les classes, voilà, vous rayonnez là où on a besoin de vous, et puis donc maintenant vous pourrez aussi accueillir pour la demi-journée ou la journée, je sais pas, suivant les formules, les classes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et que qui va durer 3 minutes 45, je te le dis, parce que je ne vais pas raccrocher, redécrocher, je vous demande de rester en ligne. Et puis on revient ensuite. Ensuite, pour parler d'un autre projet qui se poursuit dans ce lieu, justement, qui est hors norme.
Ça marche.
À tout de suite.
À tout de suite.
Or even spit out some
C'était Learn Me Right de Birdie et Mumford & Son. Nous sommes toujours, je l'espère, avec Peggy Jusperalta et Lucie Bouette-Valoris. Et Peggy, toi, tu es une multi-entrepreneuse. Alors, du coup, un projet ne te suffit pas. Donc, tu t'es lancée aussi avec le projet Ornom qui trouve sa place aussi dans votre lieu du Food Lab Solidaire. Alors, raconte-nous ce projet Ornom.
Ouais, donc au-delà donc du coup de la sensibilisation du public, des ateliers culinaires, on a dit tout à l'heure, hein, on avait un problème de gaspillage alimentaire au niveau de la production. Et donc du coup, l'année dernière, on a créé une marque alimentaire qui s'appelle Hors Normes. Et donc du coup, on vient acheter les fruits et légumes qui sont hors calibre, déclassés en surplus auprès des producteurs locaux et des coopératives locales. Et donc du coup, on les transforme pour l'instant en une gamme de bocaux, et puis ensuite on élargira notre gamme. Et donc du coup, sur le Food Lab Solidaire, sur le site, on est en train de rénover une conserverie anti-gaspi du même nom, donc de 700 mètres carrés, pour justement développer notre marque alimentaire.
Et hors norme, hein, ça s'écrit OR et norme, puisque du coup ça vaut de l'or finalement. C'est ça que vous essayez de dire, peut-être que c'est que ces déchets qu'on met au rebut, bien, c'est une vraie richesse.
Voilà, c'est ça, tout à fait, exactement. Et puis dans l'esprit toujours de ce côté hors norme, on espère pouvoir obtenir un agrément d'entreprise d'insertion et du coup pouvoir aussi accueillir dans nos salariés des personnes au parcours un peu aussi cabossé, mais qui valent aussi de l'or. Donc tu vois, on fait le lien aussi avec l'humain à travers notre projet.
Et du coup, une conserverie de 700 mètres carrés, hein, c'est pas un petit projet, c'est un vrai projet, parce que c'est vrai que voilà, parfois les gens se disent bon, c'est sympa l'économie sociale et solidaire, mais bon, c'est pas de la vraie économie. Mais si, en fait, on développe des activités qui ont un impact sur le territoire, qui ont de la dimension et qui rayonnent, puisque du coup, vous allez aussi diffuser vos produits à une échelle qui dépasse les alentours de Bray-sur-Allonne.
Ouais, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, on s'est développé de l'économie, mais avec sens, et qui a un impact localement. Donc, nous, on crée de l'emploi. Hein. D'ailleurs, je passe un petit message, on est en phase de recherche de notre responsable de production alimentaire. Donc, si jamais des personnes nous écoutent, vous allez sur la page Facebook Hors Normes Anjou, faut pas hésiter à nous contacter, on vous enverra la fiche de poste. On va créer deux autres emplois dès le début, donc trois emplois sur l'ouverture qui est prévue au mois de septembre. Et effectivement, la commercialisation des produits va rayonner sur l'ensemble des pays de la Loire et départements limitrophes. Et puis, on va aussi proposer de la prestation de service, soit en travail en façon, c'est-à-dire qu'on transforme pour autrui, pour un autre maraîcher par exemple, qui vend lui-même en direct ses bocaux, ou de la location d'espaces culinaires, parce qu'on a aussi des porteurs de projets qui sont parfois en coopérative d'emploi, qui cherchent à développer des projets autour de l'alimentation, mais tout de suite investir dans un laboratoire, etc., ça coûte très cher. Et donc, du coup, on va leur permettre de se lancer via notre conserverie.
Ça, c'est vrai que c'est important, hein, cet aspect de mutualisation. Hein. Les questions d'investissement sont toujours difficiles quand on démarre une activité. Et là, vous en avez parlé pour les locaux tout à l'heure pour accueillir d'autres entrepreneurs. Vous en avez parlé pour les cuisines pour accueillir des personnes qui veulent venir faire leur conserve les jardiniers, enfin, une petite échelle. Et là, tu en parles d'une échelle un peu plus grande de personnes qui ont besoin de transformer leurs produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi, une nouvelle économie aussi, ça, de mutualiser les actifs, le matériel, pour développer une multiple activité.
Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est vrai que du coup, sur le Food Lab, on a adapté nos activités à la fois pour les particuliers, les citoyens, et à la fois pour les professionnels. Et du coup, on crée aussi de l'économie autour de notre projet, parce qu'on a notre modèle économique à nous, mais on permet aussi à d'autres entrepreneurs de se lancer.
Et du coup, quand on était venu vous voir, voilà, tu disais que vous aviez déjà en fait des personnes qui étaient intéressées, qui vous avaient contacté d'ailleurs en France, qui avaient des projets un peu de ce type. Enfin, on voit qu'il y a aussi des connexions qui se font dans tous ces projets émergents à l'échelle mondiale forcément, mais même nationale, autour de ces enjeux de gaspillage alimentaire qui sont et tout ce qui est lié de toute façon à l'alimentaire qui est quand même un élément avec beaucoup d'innovation dans notre territoire et à l'échelle nationale.
Tout à fait. Bah, c'est vrai que du coup, on propose maintenant des formations, deux formations par an sur la transformation des fruits et légumes. Et au-delà, là, on va essayer de développer une formation vraiment spécifique à l'anti-gaspi parce qu'on a énormément de demandes. Et là, voyez, on fait une prochaine formation au mois d'octobre qui est déjà complète. Et donc, du coup, on essaye aussi de transmettre. Nous, notre vocation, elle n'est pas de dupliquer le modèle, nous, des hors normes partout en France, parce qu'en fait, ce sont des projets très liés au territoire, aux besoins d'un territoire. Par contre, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans des projets similaires ou connexes. Et donc, du coup, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice en leur transmettant nos connaissances pour qu'ils puissent dupliquer les modèles. Et voyez, par exemple, l'année dernière, j'ai eu des personnes qui venaient de La Réunion et de la Guadeloupe.
Tout à fait. Et du coup, bon, c'est difficile de passer outre. Hein. On vient quand même de traverser une crise exceptionnelle avec le confinement, on a mis à l'arrêt de l'économie pas mal. Donc, je voulais voir un peu comment ça se passait pour vous. Peut-être Lucie, parce que du coup, c'est vrai que Lucie intervient dans les écoles. Et bah, forcément, là, j'imagine que tout a dû s'arrêter ces derniers mois. Donc, comment vous passez, comment vous avez vécu ce moment et comment vous vous projetez sur l'avenir, sur le volet peut-être d'abord de sensibilisation.
Effectivement, du coup, donc on était à une animation par journée en moyenne, et donc bah là, tout s'est stoppé net, mais comme beaucoup d'autres activités. Donc là, comment on voit l'avenir ? Eh bien, on est en train de réadapter en fait tous nos kits pédagogiques pour pouvoir réintervenir dans les écoles, même s'il faut toujours respecter cette distanciation sociale et les différentes règles sanitaires en place. Donc on est en train justement de tout retravailler pour pouvoir être d'attaque dès septembre. Donc voilà.
D'accord. Et du coup, vous avez des contacts avec des écoles qui avaient l'habitude de vous faire venir. Ils sont dans l'attente. Vous sentez les choses repartir ou on peut lancer des appels pour dire en septembre, faites appel à Valoriz.
Alors là, pour l'instant, les écoles sont bah, comme un peu tout le monde en attente de savoir comment ça va se passer pour la suite. Mais effectivement, on a un gros partenaire sur le Semur, c'est Semur Agropropreté. Donc avec qui on intervient du coup depuis plus d'un an sur le territoire saumurois dans les écoles. Donc bah là c'est pareil, on est pour parler pour bien pouvoir préparer la rentrée. Donc je pense que ça ne posera pas de problème. Mais après oui effectivement, hein, s'il y a des écoles qui nous écoutent, faut pas hésiter à nous contacter. Donc sur la page Facebook à Valoriz 49 par exemple.
Voilà. Vous serez prête, vous avez pris le temps de ce moment d'arrêt pour tout repréparer pour être parfaitement prête dans quelques conditions que ce soit à la rentrée pour les activités.
Et que ça me semblait important justement de s'adapter parce que voilà, cette sensibilisation au gaspillage alimentaire, à l'alimentation saine et durable, elle nous paraît vraiment indispensable. Au vu des retours qu'on avait des écoles, on trouvait ça dommage de devoir tout stopper, donc il fallait trouver une solution pour s'adapter à cette situation actuelle.
Très bien. Et du coup, Peggy, sur le volet aussi un peu économique, notamment d'hors normes, hein, t'évoquais le fait que voilà, il y a une ouverture en septembre, vous lancez un recrutement, plusieurs recrutements, et c'est du coup alors qu'on est dans une perspective où justement on a tendance à se dire oh là là, on va avoir une crise économique encore plus forte que celle de 2008. Et puis bah, vous êtes là à vous dire on va créer de l'emploi. Donc c'est possible pour dire que le monde d'après, c'est pas que la crise, le monde d'après, c'est aussi développer une nouvelle économie.
Bah c'est hors norme quoi. Voilà, sans jeu de mots. Non, en fait, effectivement, on a pris 2 mois de retard sur le calendrier. Maintenant, nous, tout ce qui concerne le volet sanitaire, de toute façon, on est déjà nous soumis à la réglementation du port des EPI, du masque, de la charlotte, du protocole HACCP et le lavage des mains, enfin le respect, etc. Donc effectivement, on adaptera avec les gestes barrières. Après, on a un gros labo et on sera que deux sur la zone de production au tout début, donc les 1 mètre de distanciation sociale ne nous poseront pas de soucis. Et je pense aussi que le Covid a permis aux citoyens qui se sont trouvés en confinement de repenser leur mode de consommation, leur priorité de vie. Et je pense que nos produits, justement, répondent aussi à une future demande qui était déjà présente, mais qui, je pense, le sera d'autant plus, justement, dans ce monde qu'on appelle le monde d'après.
L'économie, je fais souvent la différence entre la finalisation et puis l'économie. L'économie, quand elle est locale, quand on connaît ses prestataires, quand on connaît ses clients, on peut trouver des solutions main dans la main face à ce genre d'événements. Ce qu'on peut pas quand évidemment on fait venir des produits du bout du monde et qu'on exporte au bout du monde. Voilà, la logique est complètement différente. Et donc du coup, je suis pas pessimiste en tout cas nous sur notre activité pour l'avenir, bien au contraire.
Voilà, donc si vous êtes retrouvé confiné et puis qu'à un moment donné vous êtes dit mais il faut que je me fasse à manger, je ne suis plus habitué, il faut que je me remette, Valoris peut vous aider. Et si vous voulez pas cuisiner tous les jours, eh bien vous aurez les produits de hors norme pour avoir des produits prêts à
manger de qualité, 100% végétal, exactement. Tout à fait.
Et du coup, Peggy, peut-être pour terminer, hein, parce que voilà, Valoris, vous êtes partenaire de En Transition, et là, c'est ce qu'on parle un peu avec le monde d'après, c'est-à-dire qu'on n'avait pas attendu la crise du Covid pour se projeter justement dans le guide s'appelle Demain en poche. On est toujours dans, enfin, on était depuis, c'était un clin d'œil au film Demain, bien entendu, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. On était déjà dans cette perspective de se dire, voilà, on peut faire les choses autrement, on peut faire les choses pour un monde plus convivial, plus écologique, plus solidaire. Et du coup, voilà, vous avez choisi d'être partenaire de En Transition. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette question de l'engagement dans la transition?
Alors, nous, déjà, c'est une notion de solidarité entre acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est très important pour nous voilà, d'être dans un maillage territorial au niveau des acteurs. Et puis du coup, par rapport à la relation avec justement En Transition sur notre démarrage de projet, ça nous a permis de créer du lien notamment avec les acteurs angevins, puisque nous on est non seulement sur Saumur, mais en plus on est en bout de territoire. Donc En Transition voilà, nous apporte ces connexions-là avec le réseau angevin. Et puis un regard différent, un apport de point de vue aussi. Et puis nous, on a vraiment apprécié le guide de Main en Poche parce qu'on y a même nous découvert des initiatives qu'on ne connaissait pas, des nouveaux contacts. Et donc pour nous c'est vraiment que bénéfique.
Voilà, bah, c'est vrai que tisser du lien, c'est essentiel, hein, pour améliorer la résilience de nos territoires. C'est avec ces liens de solidarité qu'on tisse et auxquels tu contribues fortement, et avec Lucie sur votre projet de Food Lab solidaire.
Ouais.
Ben, merci beaucoup.
Du coup, je rebondis juste sur le côté solidaire. Je fais juste un petit coup de pub. On organise un chantier participatif le 7 et 8 juillet. Important sur Alonne, donc pour nous aider à finaliser ces petits travaux avant de pouvoir ouvrir la conserverie et la cuisine partagée. Donc si vous êtes, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir découvrir le lieu et nous donner un petit coup de main, ils peuvent s'inscrire donc soit en nous envoyant un message sur notre page Facebook Valoris49 ou alors à notre adresse mail association.valorise@gmail.com.
Très bien, et puis ben, on relaiera aussi l'information sur nos propres supports. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bel été.
Merci, à bientôt, Michel. Au revoir.
Et puis nous allons faire une pause musicale avant de retrouver à la suite, j'ai perdu son nom, Pierre-Yves Louapre, co-gérant de Manger Bio. On enchaîne avec la musique.
I was missing the guys.
5 FM. Voilà, vous écoutez Ça c'est Climat, l'émission des initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique. C'est la dernière émission de l'année qui est rediffusée le vendredi 10 juillet. Je suis avec Pierre-Yves Louap, co-gérant de Manger Bio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Manger Bio, donc, je le disais, c'est un magasin de produits biologiques à Angers. Présentez-nous un peu ce magasin.
Oui, bah, Manger Bio, en fait, ça, comme vous le disiez, c'est un magasin d'alimentation biologique indépendant. Il se situe 15 rue de l'Étendeuère, juste à côté de la place Lafayette. Le magasin, il est ouvert depuis septembre 2018. En fait, c'est un magasin qui existait déjà depuis longtemps. Il s'appelait autrefois en fait Rayon Vert, et il a une grande existence. Donc nous, on s'inscrit dans la continuité de ce magasin. On est deux co-gérants, donc Nelly qui est ma compagne et puis moi-même, et nous avons deux salariés, donc avec chacune une compétence forte en cosmétique pour Sophie et puis en complément alimentaire pour Audrey qui est naturopathe.
Voilà, parce voilà, que donc, du coup, c'est pas que des produits alimentaires, vous avez une gamme un peu variée de produits dans votre magasin.
Oui, exactement. Donc en fait, au-delà de, je dirais, de l'épicerie classique hein, qu'on retrouve dans la plupart des magasins bio, je parlais de l'épicerie sucrée salée, du frais, des fruits et légumes. On a également donc une offre en fait en vrac, parce qu'on a voulu justement sensibiliser nos clients au vrac, donc avec plus de 90 références. On a aussi développé donc un rayon autour du bébé pour les jeunes mamans. Mmh. On a également en fait aussi tout un rayon sur les boristeries avec thé infusion. Mais comme vous le disiez, ça, je dirais, c'est la partie, je dirais, commune. On a une spécificité forte, en fait, avec une large gamme de compléments alimentaires et de produits cosmétiques naturels. Voilà. Et c'est là, en fait, qu'on se différencie, puisqu'on a des compétences fortes, hein, comme je disais tout à l'heure avec Sophie Audrey, moi aussi avec Nelly, qui avait, en fait, un magasin, en fait, sur Rennes, un magasin bio, pendant 10 ans, qui a une grosse expérience en fait sur la partie complément alimentaire.
D'accord. Et du coup, c'est vrai que ces dernières années, hein, alors vous étiez dans la continuité d'un magasin, comme vous l'avez expliqué, mais ces dernières années, à Angers, on a vu beaucoup d'ouvertures de magasins distribution bio. Alors, c'est un phénomène à l'échelle nationale, mais peut-être un peu plus fort encore à Angers. Comment vous interprétez ça? Comment vous voyez ça, vous?
C'est vrai, c'est exactement ça. J'ai compté, en fait, depuis 2016, là, il y a eu 5 ou 6 magasins qui sont ouverts dans le nôtre. Alors moi, je l'explique, en fait, très simplement. Hein, je pense que depuis plusieurs années, il y a un engouement plus prononcé pour les produits bio. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait que 9 consommateurs sur 10 déclaraient avoir consommé du bio au moins une fois par mois. Donc on est là sur une tendance, je dirais, globale, où on a des consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés aux produits bio. Et je pense qu'effectivement, il y a une spécificité quand même plus forte à Angers, je dirais, globalement, au niveau du département. Sans doute lié à l'histoire du territoire qui est tourné vers l'agriculture biologique et le végétal depuis au moins une trentaine d'années. Ce qui fait qu'effectivement, on a quand même une population qui est déjà depuis pas mal de temps sensibilisée à l'agriculture biologique et donc à la consommation de produits bio. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier...
Oui, Allez-y.
Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, en fait, toutes les initiatives qui ont été mises en place pour inciter les consommateurs à se tourner vers le bio, que ce soit au niveau des institutions, des associations, des producteurs... et des associations, par exemple, comme En Transition, qui accompagnent, en fait, justement, les consommateurs aussi et au changement vers le bio.
Oui, du coup, ces consommateurs, justement, vous, comment vous voyez ces consommateurs dans votre magasin? Est-ce que, justement, c'est les habitués ou c'est les jeunes mamans, vous disiez? Enfin, c'est nous, de consommateurs de plus en plus sensibles, vous disiez, vous voyez arriver ces nouveaux consommateurs qui découvrent un peu le bio?
Oui. Alors notamment au travers de la jeunesse et de la nouvelle génération qui est sensibilisée peut-être plus que les aînés, en fait, parfois, à mieux consommer, notamment l'utilisation du vrac en est un exemple. Hein. C'est pour la raison qu'en fait, c'est pour cette raison qu'on a monté très rapidement, en fait, un rayon vrac pour offrir des alternatives plus écologiques avec moins de gaspillage. Donc on a des jeunes qui viennent de plus en plus dans nos magasins bio, des jeunes mamans, bien entendu. Alors il ne faut pas oublier aussi que nous, on a une spécificité, c'est qu'en fait on est un magasin de quartier, de proximité, avec une clientèle aussi qui est en fait initiée au bio depuis très longtemps, de par l'histoire du magasin Rayon Vert autrefois, et qui donc est très habituée et très exigeante aussi, donc avec un niveau de service attendu qui doit être à la hauteur. Donc c'est des gens, en fait, c'est un panel de consommateurs vraiment très très divers, des nouveaux entrants, en fait, sur le marché de la bio, mais aussi des gens qui sont sur le bio avec toute son histoire depuis très longtemps.
Et oui, c'est vrai que du coup, il faut un peu jongler entre des gens qui connaissent très bien les choses, très exigeants, comme vous le dites, et puis des gens qui ont peut-être des questions de novice. Voilà, dans l'accueil aussi dans le magasin, il faut savoir s'adapter à tous ces consommateurs.
Oui, c'est un petit peu l'objectif, hein, de notre projet sur notre magasin Manger Bio, en fait, hein, c'est de créer, en fait, un espace convivial, chaleureux, et qui permettent, en fait, d'accompagner, en fait, nos clients par rapport à leurs attentes en consommation de produits bio, en compléments alimentaires ou en cosmétiques. Voilà, c'est vrai que on a en fait des demandes, en fait, très très pertinentes, très très pointues parfois, et donc c'est apporter ce service, en fait, à nos clients.
Oui, c'est ça qu'on voit aussi, c'est ce que vous dites, hein, dans votre démarche, c'est que vous avancez aussi grâce à vos clients, grâce aux consommateurs, vous l'évoquiez sur le vrac, enfin voilà, ça, c'est aussi parce que les consommateurs prennent conscience, ont des attentes et des envies, que ça vous pousse aussi à avoir envie de développer les choses et d'avancer, quoi.
Oui, exactement, et puis il faut rester humble, il y a parfois voilà, des clients en fait qui en savent plus que nous sur certains sujets. On n'a pas la science infuse. Et c'est un, je dirais, c'est un échange mutuel, c'est un partage, c'est effectivement un enrichissement, je dirais, personnel. Nous, on a la chance dans un petit magasin comme le nôtre de pouvoir, je dirais, travailler en proximité, dans le dialogue, dans l'échange. On passe le temps nécessaire avec les clients pour les écouter, pour les conseiller, et c'est vraiment important pour nous. On peut le faire parce qu'on est un petit magasin, et c'est un axe fort en fait pour nous et pour nos clients. C'est quand nos clients viennent dans le magasin, ils savent que derrière ils vont trouver ce service là.
Et du coup, justement, cette question d'être cette proximité, de prendre le temps, forcément, ça a été un peu bousculé ces derniers mois avec la crise sanitaire, avec le confinement, ou même si, comme vous étiez un magasin alimentaire comme les autres, c'est des magasins de première nécessité que vous êtes resté ouvert, néanmoins, dans des conditions bouleversées, forcément. Donc, comment vous avez vécu ça, vous, à titre personnel, hein, et puis au niveau de l'équipe, du magasin, des clients, des fournisseurs, peut-être aussi?
Alors, c'est vrai que ça a été difficile au départ, hein, parce qu'en fait, on avait très peu d'informations sur les consignes à mettre en place dans notre magasin. C'est vrai qu'on a été un peu livré à nous-mêmes au départ. Donc on a décidé très rapidement de prendre des mesures. Hein, donc très rapidement, on a porté par exemple le masque, hein, pour nous protéger et protéger nos clients. On a mis aussi en place une jauge de 8 personnes maxi dans le magasin, hein, pour permettre de réguler les flux et que les règles de distanciation soient bien respectées. On a aussi en fait beaucoup communiqué par affiche en fait dans le magasin sur les règles sanitaires à respecter. Et puis on a décidé aussi une mesure en fait assez drastique, c'est-à-dire que qui nous a entraîné évidemment beaucoup de travail, mais qu'on a jugé nécessaire, c'est-à-dire qu'on a décidé de servir en fait les fruits et légumes et le vrac. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois que les clients avaient besoin, eh bien c'est nous qui les servions avec nos salariés. Donc globalement, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Nos clients ont bien respecté ces règles-là. Par contre, c'est vrai que ça a été une charge d'exploitation en fait hors norme par rapport en fait à l'habitude, hein, puisqu'en fait on est resté à effectif ISO, hein, on n'a pas spécifiquement embauché pour gérer cette crise sanitaire, donc ça a été beaucoup 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 de travail.
Oui, c'est ça, hein, c'est ce que disent aussi vos collègues aussi, c'est que finalement ça vous demandait plus de travail avec des conditions d'ouverture particulièrement drastiques, quoi.
Ouais, exactement. Donc il faut reconnaître qu'on a eu la chance par rapport à d'autres secteurs d'activité, par contre, de rester toujours ouvert pendant le confinement, hein, durant toute la crise sanitaire, qui n'est pas finie d'ailleurs. Donc ça, c'était une chance. On a juste en fait fermé notre magasin un petit peu plus tôt le soir, à 18h au lieu de 19h15. Mais effectivement, on s'est retrouvé très vite assez submergé en fait par la charge, parce que en fait les marchés étant fermés sur Angers, et notamment celui de Lafayette qui était un grand marché d'Angers, on a vu l'afflux en fait des clients sur entre autres le rayon fruits et légumes, puisqu'on est arrivé jusqu'à multiplier par 3 en fait nos volumes de vente sur les fruits et légumes. Donc forcément ça veut dire quoi, plus de manutention, plus de services, des commandes en fait plus importantes à préparer, donc effectivement beaucoup beaucoup de travail.
Une grosse mobilisation. Et du coup, comment vous avez senti les consommateurs, et comment vous les sentez après coup, dans on en parlait tout à l'heure avec Peggy de valoriser hors normes, sur le fait que peut-être ça avait été un temps où chacun avait pu se réinterroger sur ses modes de vie, ses modes de consommation, voilà, et vous-même peut-être sur les projets aussi que vous avez avec le magasin.
Oui, alors, je pense que globalement les consommateurs ont privilégié les circuits courts et proximité, hein, c'est pour ça qu'on a vu des gens qui d'ailleurs habitent le quartier mais qui n'étaient encore jamais venus dans notre magasin, de ce fait là avec le temps qu'ils avaient à disposition, souvent en fait en chômage partiel, ne travaillant pas ou en télétravail, ont pris le temps de venir dans leur magasin de proximité. Et effectivement, c'est peut-être que c'était déjà en fait en réflexion chez certains consommateurs de privilégier les circuits courts, la proximité. Je pense que il y a aussi nous on a vu des clients qui sont venus aussi par curiosité découvrir pour la première fois le magasin. Sur maintenant la durée des bonnes intentions, en fait, liées à la réflexion et la maturation des projets de changement, là, je suis un petit peu plus sceptique, on va dire. Voilà, en fait, on a constaté que très rapidement, une fois le déconfinement décidé, finalement, les gens ont repris leur bonne vieille habitude. Hein. Donc, ce qui se comprend tout à fait, hein, d'ailleurs. Donc, on verra. Je dirais, il est peut-être un peu trop tôt aujourd'hui de faire un bilan. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que on a gagné des clients, hein, forcément, des clients qui ne venaient pas, en fait. Certains, en fait, reviennent nous voir. Ça, c'est plutôt un point positif pour nous. On a gagné de la visibilité aussi. Finalement, ça a été notre meilleure campagne de communication. voilà. Ce qu'on peut tirer, en fait, de ce bilan à travers du confinement.
Et peut-être vous des perspectives pour le magasin
Alors, en tout cas, ça pose des questions, c'est sûr. Par exemple, en fait, on a décidé aussi durant ce confinement de livrer, faire des livraisons à domicile sur des personnes en fait très ciblées, en l'occurrence des personnes vulnérables, malades ou en difficulté pour se déplacer. C'était à peu près une douzaine de livraisons par semaine, donc c'était très modeste. Mais par contre, c'est vrai que ça nous amène en fait à la réflexion. Hein. On parle beaucoup du e-commerce, bon, depuis déjà pas mal d'années, mais c'est vrai que nous, par exemple, c'est pas du tout prévu dans notre aujourd'hui dans notre modèle économique. Est-ce qu'il faut le prévoir demain? C'est peut-être une réflexion en fait à poursuivre dans les mois, les années qui viennent, hein. Parce que effectivement, on sent aussi clairement une demande et un besoin en fait sur ce créneau-là. Parce que en fait, les gens parfois ne peuvent pas se déplacer, mais aussi parce que ça correspond en fait à une attente des nouvelles générations très connectées en fait sur Internet.
Et du coup, hein, vous l'évoquiez juste avant sur cette question des bonnes intentions qui ont parfois du mal à se concrétiser dans des changements d'habitude. Et du coup, voilà, vous êtes partenaire dans Transition, où justement il y a cette question de transition qui décrit bien ce phénomène de changer son mode de consommation, changer son mode de vie. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est pas forcément si évident. Ça demande du temps. Qu'est-ce qui vous parle, vous, dans cette question de la transition
Justement, ouais, vous dites bien, en fait, globalement, en fait, on voit bien qu'on est arrivé, en fait, au bout d'un système, hein, depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire moins de 200 ans, on a épuisé les ressources de la planète, on en paye le prix aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, notamment. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse, et heureusement, beaucoup d'acteurs en fait sont sur le sujet, à changer nos modes de consommation, nos modes de pensée. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est pas toujours si simple, que ce soit en tant que citoyen consommateur, mais aussi nous en tant que professionnels. Et je pense qu'effectivement, c'est en multipliant les partenariats, le réseautage de gens qui ont la connaissance, qui ont l'expérience, qu'on va pouvoir faire en fait ensemble avancer les choses. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important de démarrer un partenariat avec En Transition, parce que en fait c'est un moyen pour nous en fait de partager en fait notre vécu, mais aussi de voir en fait ce qui se fait en fait ailleurs, en l'occurrence quelle est la boîte à outils en fait pour changer en fait les modes de consommation, les modes de pensée, pour arriver en fait à une transition en fait écologique finalement.
Très bien. Eh bien, rappelez-nous alors où on peut aller à votre rencontre, Manger Bio.
Donc Manger Bio, donc je rappelle en fait notre adresse, 15 rue de l'Étantuaire, à côté de la place Lafayette. Voilà. Donc notre magasin est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 14h30 à 19h15.
Voilà, et eh bien on vous invite à aller vous rencontrer, vous découvrir, et puis voilà, merci beaucoup, on va pas tarder à conclure l'émission. Au revoir.
Merci Mickaël, au revoir.
Alors pour conclure cette émission, je ne pouvais pas ne pas parler de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens tirés au sort et représentatifs sociologiquement de la population française, après 8 mois de travaux, ont abouti à un rapport avec des propositions sur 5 grands axes, je ne sais plus combien de mesures, 150, je ne sais plus si 150 comme les citoyens ou pas, mais rien de révolutionnaire dans ces propositions. Maintenant, la balle est dans le camp du président de la République pour voir si le gouvernement en prend acte. Je vous invite vraiment à aller sur le site de la Convention pour découvrir ses propositions pour un monde de demain. Au revoir.